plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Aujourd'hui, nous vous proposons la suite et fin du roman Une vie de boy de l'écrivain camerounais Ferdinand Oyono. Suite et fin qui marque aussi la fin de l'histoire mouvementée et pathétique de Tundi, jeune boy africain que sa curiosité naïve va pousser à découvrir certains secrets des colons blancs. Boy cuisinier du commandant de Dangan, Tundi va découvrir que l'épouse de celui-ci le cocufie avec M. Moreau, le responsable de la prison. Un secret de polichinelle car connu de tous les indigènes de Dangan et même des colons. Mais voilà, pour Tundi, cela va marquer le début de sa perte. Son patron, le commandant, loin de rester fâché avec sa femme qui le trompe, va plutôt se réconcilier avec elle. De son côté, l'amant de l'épouse du commandant, M. Moreau, chef de la prison, va monter un coup tordu pour accuser faussement Tundi de vol, le torturer puis le jeter en prison. Tundi va-t-il y laisser sa peau ou va-t-il pouvoir sortir sain et sauf de ce piège de M. Moreau? Pour le savoir, nous vous invitons à suivre la suite et fin de l'histoire de Tundi, extraite de Une vie de boy de l'écrivain camerounais Ferdinand Oyono. J'ai vomi du sang. Mon corps m'a trahi. Je sens une douleur lancinante dans ma poitrine. On dirait que mes poumons sont pris dans un hameçon. Ce matin, Mandim m'a conduit chez Gosier d'Oiseau, qui n'a d'abord rien voulu entendre sur mon mal.
« On ne me couillonne pas facilement comme ça !»
disait-il en raidissant son cou.
« On ne me couillonne pas facilement, mon ami !»
Il se leva de son bureau et vint tourner ma tête dans tous les sens. Il posa une main humide sur mon front, fit une grimace puis tâta mon pouls.
« Bon !»
dit-il en retournant à sa place. Il sortit un cahier et me demanda mon nom. Quand il eut fini d'écrire, il tendit le cahier à Mandim qui claqua les talons.
« Conduis-le chez le docteur. On va tirer ça au clair. Quant à toi, »
dit-il en me regardant dans les yeux,
« ne crois pas que cela m'empêchera de reprendre mon interrogatoire cet après-midi. »
Nous sortîmes. De l'hôpital, je ne connaissais que les murs décolorés qui avaient été jaunes et que j'apercevais au-dessus de la haie d'hibiscus quand je me rendais au marché. Deux endroits terrorisaient les indigènes de Dangan, la prison et l'hôpital, que tout le monde appelle ici la crève des nègres. Enfin, nous arrivâmes. L'hôpital de Dangan est situé entre le centre administratif et le centre commercial. Il comprend une dizaine de petites maisons uniformes groupées autour d'une pelouse au centre de laquelle se dresse, rouge et jaune, la salle d'opération. Un infirmier indigène nous aperçut et vint au devant de Mandim, le bras tendu, un large sourire sur les lèvres. À son exubérance, je compris qu'il avait peur. Il avait peur de Mandim, comme tous ces passants qui s'étaient fébrilement découverts sur notre passage. Il offrit spontanément une cigarette à Mandim. Désolé qu'il ne fumât pas, il fouilla dans ses poches et en sortit une noix de cola. Mandim lui sourit. L'infirmier en parut soulagé. Il fendit la noix en deux morceaux. Il en tendit un à Mandim et lança l'autre dans sa bouche. Leurs mâchoires remuèrent en même temps. L'infirmier fit une petite grimace.
« Qu'est-ce qu'il a, ce lascar ? Est-ce encore un prétexte ?»
Mandim enfonça la tête dans ses épaules et arrêta de mâcher. Il cracha entre les jambes de l'infirmier.
« Je te présente mes excuses, »
dit l'infirmier au garde.
« Nous avons souvent des malades imaginaires parmi vos prisonniers. »
Mandim cracha encore sur ses souliers. L'infirmier s'écarta de notre passage.
« Je suis désolé, olé. »
bégaya-t-il derrière nous.
« Ils sont tous comme ça, tous les mêmes. » Il sait qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouverons. Pour cela, il dit des bêtises.
Nous nous dirigeâmes vers le dispensaire. Les malades, en rang par deux, attendaient derrière une porte sur laquelle on lisait « cabinet du médecin ». Comme le rang aurait pu être plus long que la véranda, le garde qui faisait l'ordre réussissait le tour de force de faire tenir tout le monde dans ce petit espace. Tous les malades et toutes les maladies du monde s'y côtoyaient, se bousculaient, suaient, s'écrasaient, avec un mouvement de flux et de reflux, selon qu'on ouvrait ou refermait la porte. Il y avait des pianiques boutonneux, comme des boutures de manioc, des lépreux à la peau empoulée et fendillée, des sommeilleux toujours ailleurs, des femmes enceintes, des vieilles femmes, des bébés pleurnichards, etc. Aussitôt qu'il aperçut Mandim, le garde se mit au garde-à-vous. Mandim commanda.
Repos !
Parmi les malades, Il nous fraya le chemin à coups de fouet. Il frappa lui-même à la porte du cabinet. Un autre était derrière la porte. Il entrouvit. Dès qu'il vit Mandim, il sortit et nous laissa entrer avec force révérence.
Il n'y a personne encore. Il n'est que 10 heures. Pour le moment, le médecin indigène est en train de faire une opération. La consultation commencera dès qu'il aura fini. Quant au docteur Blanc, il n'est jamais là. D'ailleurs, il vient de passer capitaine.
Je m'assis sur un banc. J'avais soif. Il me semblait qu'une aiguille traversait mes poumons de part en part. Je ne pouvais pas respirer profondément. Le poids que je sentais sur mes côtes m'en empêchait. Mandim s'était assis en face de moi. Il feuilletait et refeuilletait le cahier de visite tout en dodelinant de la tête.
« Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais reçu un coup de crosse sur la poitrine hier ?»
me demanda-t-il à brûle-pourpoint.
« Tu sais, les coups de crosse de Diafaro ne pardonnent pas. J'avoue que je ne comprends pas. Vos compatriotes du Nord sont vraiment d'une inhumanité. »
Un grand mouvement se fit derrière la porte. Le médecin indigène entra. Il nous serra la main, accrocha son casque et s'assit à son bureau. C'est un homme qui doit aller vers ses 40 ans, mais sa minceur lui donne une tournure juvénile que trahit le tatouage qu'on faisait entre les sourcils quelques années après la Première Guerre mondiale. Il me dit de me déshabiller. Il promena son stéthoscope sur mon dos, l'appliqua sur ma poitrine en me disant de respirer. Il fronça les sourcils, parut pétrifié, mais après une fraction de seconde, son visage redevint impassible. Il retira l'appareil de ses oreilles, alluma une cigarette, quitta sa chaise et vint s'asseoir sur la table de son bureau.
« Encore un coup de crosse. Il faut que je fasse une radio. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai les clés de la salle où se trouve l'appareil. Et le médecin-chef n'est pas là. »
Il se leva et écrasa violemment sa cigarette dans le cendrier.
« Il n'est pas là. Jamais là. »
Il vint à moi et me posa la main sur l'épaule.
« On va t'hospitaliser. » N'aie peur de rien. Tout ira bien. Je vais faire un rapport au commissaire de police. »
Il écrivit pendant 10 minutes, puis remit la lettre à Mandim qui claqua les talons et s'en alla. Le médecin appela un infirmier.
« Il n'est pas là !»
répondit un autre qui s'engouffra dans le cabinet, un bocal sous l'aisselle.
« Plus d'alcool !»
dit-il en posant bruyamment le bocal sur la table.
« Plus d'alcool !»
Il enleva sa calotte et se sua le front. C'était une énorme grenouille au visage écrasé. Si écrasé qu'on aurait cru qu'on l'avait rentré d'un coup de poing. Il mettait son gros ventre à l'aise en ne boutonnant ni sa veste ni sa blouse. Une petite chaîne en or disparaissait dans l'un des 1000 replis de son cou de taureau pour réapparaître sur sa pomme d'Adam où un Christ, ici en métal, subissait le supplice du bain de la sueur du gros nègre. Le médecin le regarda avec indifférence et lui montra la porte. L'infirmier vacilla, prit le bocal et se dirigea en zigzagant vers la porte.
« Oui, chef !»
dit-il en riant. L'odeur d'alcool et d'éther qui empuantissait le cabinet s'en alla avec lui. J'avais froid. Bien que le soleil fût de plomb, mes dents claquaient. Une langueur m'engourdit. Je me sentais léger. 1000 soufflets de forge accélérant ma respiration. Mes pensées étaient au point mort. La blouse blanche du médecin me recouvrait et recouvrait toute la salle. Elle flottait là-bas, sur la tombe du père Gilbert, sur sa motocyclette, sur le broyeur des Blancs. J'étais au fait du fromager, oui, là-haut, dans ses branches. À mes pieds s'étendait le monde, un océan de lépreux, de pianiques, de femmes enceintes, éventrées, de vieillards visqueux, où des millions de gosiers d'oiseaux juchés sur des terres à termitières faisaient l'ordre à coups d'hippopotame. Je pris mon élan sur ma branche et foncé tête baissée, faisant un plongeon de 1000 kilomètres sur ce monde, où ma tête éclata comme une bombe. Oui, je n'étais plus qu'une nuée. Une nuit de luciole, une poussière de luciole qu'emporta le vent, et ce fut le noir. Quand je revins à moi, j'étais couché sur une natte dans un lit de bois, isolé dans une cabine dont les cloisons descendaient à une certaine distance du sol. De mon lit, je ne voyais que les pieds des gens. La poignée de la porte de ma cabine tourna. Je fermai les yeux.
« Il n'est pas encore réveillé !»
dit une voix que je reconnus être celle du médecin africain. Il prit mon poignet et posa sa main sur mon front, puis s'en alla. La poignée de la porte tourna à nouveau. J'entendis un bruit de pieds nus. Cela devait être un noir de ma condition. J'ouvris les yeux et vis un visage balafré sous une chéchia écarlate. Il se tenait au garde-à-vous. C'était un Sara. Je lui fis comprendre par geste que j'avais soif. Il me menaça de sa baïonnette. Je restais quoi ? J'avais terriblement mal à la tête. À 6 heures, le médecin africain revint, accompagné cette fois-ci du docteur Blanc et de Gosier d'Oiseau. Ils soulevèrent ma couverture tout en écoutant les explications du médecin indigène. Il disait que je devais avoir une côte cassée qui aurait atteint une bronche.
Nous verrons cela demain,
dit le docteur Blanc.
D'ailleurs, il n'a que...
Il regarda ma courbe de température.
39,5 de température. Ce n'est pas grave pour eux. Il n'y a pas de danger qu'ils se débinent.
Ajouta-t-il pour rassurer Gosier d'Oiseau. On me fit avaler des comprimés. Le médecin noir remonta ma couverture. Ils s'en allèrent. À minuit, je faisais le ronfleur. Les Blancs étaient revenus seuls. Le docteur répétait aux autres ce que lui avait dit le médecin indigène. J'ouvris imperceptiblement les yeux. Monsieur Moreau était là. Comme il paraissait heureux en se dandinant sur ses jambes.
Il faut qu'il ait son châtiment. Soignez-le et envoyez-le-moi. C'est un élément dangereux. Je saurai le faire avouer. Je m'en occuperai dès demain.
Les Blancs s'en allèrent. L'infirmier qui faisait la ronde vint me voir. Il portait sa blouse directement sur son slip. Il me regarda profondément et prit ma main.
Non, je ne crois pas que tu aies fait ce qu'on te reproche. Je ne me trompe jamais. Tu n'as pas une tête à faire une chose pareille. Il y a autre chose là-dessous. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu es un malade aussi important. Quand les Blancs ont juré d'avoir quelqu'un de nous, ils l'ont toujours. Moi, je me demande ce que tu fiches encore ici. Personne ne te croira tant que la vérité ne sortira que de ta bouche. Et ça, c'est la vérité. Tu n'es plus bon que pour la Guinée espagnole ou pour le bacon.
Il me donna 100 francs et s'en alla. Je me sentais mieux. Il faut que je me sauve. Je m'en irai en Guinée espagnole. Monsieur Moreau ne mourra pas. Le garde ronfle déjà. L'horloge de l'hôpital a sonné 3 heures du matin. Je vais courir ma chance, bien qu'elle soit... très mince. Ainsi prend fin l'histoire de Tundi, jeune garçon noir, employé comme boy à la mission catholique, puis par la famille du commandant du cercle. Devenu rapidement un témoin gênant dans la vie privée de la femme du commandant et de son amant, le directeur de la prison, Tundi est violemment frappé, puis mis en prison. Suivant la suggestion d'un infirmier noir de l'hôpital de Dangan, où il est interné après sa bastonnade en prison pour se faire soigner, Tundi décide de fuir pour sauver sa vie. Une vie de boy est un roman écrit par l'auteur camerounais Ferdinand Oyono et paru en 1956, quelques années avant les indépendances africaines. Tout comme deux autres romans du même auteur, « Le vieux nègre et la médaille » paru en 1956 aussi, et « Chemin d'Europe » paru en 1960. Trois romans de Ferdinand Oyono qui font scandale durant cette période de décolonisation. À travers ses ouvrages, Ferdinand Oyono retrace la vie quotidienne en Afrique pendant la colonisation et n'hésite pas à mettre en cause l'administration coloniale, mais aussi l'église importée par l'homme blanc et la police coloniale. Né à Ebolowa, province du sud du Cameroun, en 1929, Ferdinand Oyono, dans une vie de boy, fustige le système colonial mis en place par l'homme blanc au détriment des sociétés africaines trouvées sur place à son arrivée. Le roman est traversé de sous-thèmes, dont la violence du colonisateur envers le noir, l'infidélité qui régnait au sein des blancs et la solidarité entre les noirs. Une vie de boy est en somme une histoire des mœurs coloniales dans une petite ville d'Afrique et aussi les souvenirs d'un jeune noir quelque peu romantique, Tundi, qui voit s'envoler ses illusions sur les blancs. Ferdinand Oyono n'a pas exploré d'autres sujets en cessant d'écrire depuis 1960. Il est décédé le 10 juin 2010 à Yaoundé, au Cameroun. Mais il a laissé dans la littérature africaine des œuvres majeures qui ont éveillé la conscience du noir et l'ont amené à comprendre qu'il lui fallait lutter afin d'acquérir son indépendance et de prendre en main sa propre destinée. Pourquoi ?
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation à Aoussi Potin.